désolé.
Pas d'attraction du coup là.
Bien, écoutez, messieurs, dames, ravis de vous retrouver toutes et tous pour ce petit numéro de rentrée. Voilà. Alors, voilà, ça a été très bien rappelé par notre ami Rodolphe. Enfin, je ne vais pas revenir dans le détail. Vous savez un petit peu comment on procède. J'aborde un sujet. Celui-ci, ce soir, c'est quelle différence y a-t-il entre un contrat en CDD et une fessée déculottée? Je vois mes yeux qui pétillent. Alors, ça va être donc le sujet que je vais aborder. Ça peut vous sembler étonnant comme ça, hein, l'amorce. Enfin, c'est pas étonnant. En même temps, comme ça, je suis garanti d'avoir la salle pleine. Alors, je commence à connaître un peu la roque, hein, ça va. Donc je vais essayer de traiter le sujet. Comme vous le savez, je ne parle pas en mon nom propre, hein, j'ai une tendance à la bassesse, à la veulerie. Je présente plutôt des auteurs. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, je ferai appel à quelques auteurs. Je ferai d'abord appel à... bien sûr, ça vous le connaissez certainement, hein, Kant, hein, grand moraliste. Alors, au niveau de la fessée, j'ai essayé de regarder, au niveau de sa biographie, on n'a pas beaucoup d'informations.
Je n'avais pas le temps.
Hein. Par contre, vous savez qu'on a des informations sur Rousseau. Hein, je ne sais pas si vous savez, hein, Rousseau, parlons des confessions, hein, il y a une cochonne quand même, hein, quand il se fait un peu corriger. Et, en fait, il aime bien. Il aime bien surtout l'appeler maman pendant qu'elle le corrige, même si c'est pas maman. Lui, on est quand même bien avancé dans le truc. Je parle de Rousseau par rapport à la fessée, si vous voulez, mais je parle de Rousseau aussi parce que sur l'autoroute, arrivant à Aix-en-Provence, je vois le panneau Les Mille.
Ouais,
Rousseau. Bon, donc je ferai appel, il y en a qui se demandent un peu où je vais avec mon main. Je ferai donc appel à Kant pour réfléchir bizarrement sur le rapport entre le CDD et la fessée déculottée. Je ferai ensuite appel à quelqu'un que j'ai déjà cité ici, mais pour qui j'ai beaucoup d'affection. Comme je ne sais pas ce que c'est qu'un philosophe, je vais décréter que c'en était un. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un grand goûteur et un grand amateur de littérature, c'est Philippe Muret. Hein, sur lequel je vais revenir, hein, qui n'a pas fait de disque. Ce n'est pas Muret. Et puis, dans un troisième mouvement, alors là je ferai appel à quelqu'un que vous savez bien, parce que c'est grâce ou à cause de lui que vous mettez 50 euros dans le bourrin quand vous allez consulter, c'est Freud. Hein. Donc voilà, c'est les auteurs sur lesquels je vais m'appuyer en priorité pour traiter ce drôle de sujet. Quelle différence y a-t-il entre un CDD et une fessée? Comme ça a été rappelé, j'énonce, développe, c'est construire un truc qui vaut, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je mets à disposition des auteurs qui nous aident à penser un peu plus, un peu mieux, un peu plus loin. C'est parti. Deuxième mouvement, on débat avec la salle, je débat avec la salle, toujours en prenant appui ou en me cachant derrière les auteurs que j'ai présentés. Et puis enfin, troisième élément, vous êtes venus pour ça, c'est intéressant, il faut le rappeler, c'est la buvette. Lors de laquelle, moi je mets une option sur les tucs, parce que j'ai quand même remarqué que vous tapez trop vite dedans, parce que moi je suis trop gentil, galant et tout, je réponds aux questions, parce que c'est aussi le but du jeu, en cercle plus intime, on essaie de creuser plus loin, et quand je retourne à l'assiette des tucs, donc, alors soyez un peu fair play quand même, vous venez pour la buvette, moi aussi, mais en priorité sur les tucs, hein. Donc on essaie de faire play cool avec l'animateur de soirée, si vous voulez. Tapez pas trop dans les trucs dans la troisième partie. Ça va? C'est bon pour tout le monde au niveau de la méthode, la méthodologie philosophique, pour parler comme le prof qui donne des conseils pour assurer au bac. Ça va? D'accord? Ok, très bien. Voilà. Alors, bon, sujet à la con, hein, il faut en convenir. Hein. La différence entre un CDD et une fessée déculottée. Pas tant que ça, parce qu'en fait... je pars de ce constat dont j'espère que vous allez le partager avec moi. J'ai l'impression, alors c'est une intuition qui est très, comme toute intuition, très subjective, mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle manière d'établir des relations les uns avec les autres, et puis surtout il y a une nouvelle manière d'établir des relations hiérarchiques. Alors, malheureusement, on n'est pas toujours dans des rapports d'égalité, on n'est pas dans des rapports que l'on choisit, qui sont des rapports d'affinité. Notre drame, c'est que des fois, on s'inscrit dans des rapports dans lesquels il y a des dominants et des dominés, il y a des subordonnés et puis d'autres qui donnent des ordres. C'est le champ du travail, c'est le champ du politique, par exemple. Et l'intuition que je voudrais vous soumettre, c'est la suivante. J'ai l'impression que les rapports de subordination, les rapports de domination, les rapports de hiérarchie, ils ne s'énoncent plus de cette manière. Ils sont voilés. Ils ne sont pas énoncés de manière franche et directe en disant « il y a un donneur d'ordre et il y en a un qui exécute ». Ça peut être douloureux, c'est toujours frustrant pour celui qui exécute. Enfin, en tout cas, celui qui exécute, au moins, il a pour lui une compensation, c'est que c'est franc, c'est clair, c'est franc du collier. Celui qui donne l'ordre se pose comme étant le donneur d'ordre, qui est au sommet, qui est au-dessus. Donne une injonction qui impose son point de vue à celui qui est dessous. Il me semble que ça a un petit peu changé. Il me semble que les rapports hiérarchiques, maintenant, c'est des rapports, ils sont beaucoup marqués au sceau de l'infantilisation. Quand je dis que les rapports hiérarchiques sont beaucoup marqués au sceau de l'infantilisation, je veux dire quoi ? Je veux dire que très souvent, celui qui est sur un poste de domination, sur un poste de hiérarchie, il ne dit pas ça, peut-être qu'il n'assume pas ça, et au contraire, il essaie de faire passer cette domination, cette autorité, cette hiérarchie, en la jouant cool. Et en essayant d'établir des relations avec ceux qui lui sont soumis, qui sont des relations sous le signe du maternage, sous le signe de la complicité, sous le signe du cocooning, sous le signe de la sympathie. Ainsi, par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous avez le manager, pardon, j'ai failli dire chef, on dit plus chef. Vous avez le manager, et le manager, il fait un truc très très cool. Le vendredi, il vient en jean et il retire sa cravate, tu comprends ? Peut-être même qu'on peut l'appeler par son prénom. Et peut-être même que de temps en temps, il va organiser des stages vachement cool avec son équipe. Avec sa team, et dans le stage super cool avec sa team, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des jeux super marrants. Par exemple, ils vont faire du paintball. On dirait qu'ils vont jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais on ne dit pas qu'ils vont jouer aux gendarmes et aux voleurs. Ils vont faire du paintball, et ça, ça va être génial si tu veux. Au niveau de la gestion, la team. Parce que là, si tu veux, ça va vraiment serrer les liens et ça va être vraiment une ambiance super sympa. Tu vois ? Donc là, l'exemple est quand même assez significatif. C'est qu'un exemple, on pourrait peut-être en trouver d'autres. Mais l'exemple, il illustre ce que je suis en train de pressentir. C'est qu'au fond, il y a une espèce de contamination dans la société. Et cette contamination, c'est quoi ? C'est un modèle, qui est un modèle du rapport, qui est un rapport qu'établissent les uns avec les autres, qui est un rapport marqué au sceau de l'infantilisation, au sceau de la maternisation, du cajolage. Allez, tiens, on va tous travailler tous ensemble dans un espace de coworking, mais tous ensemble. Hein. D'ailleurs, je veux dire, c'est un espace open, tous ouverts, tu vois. Et puis dedans, ce qui est génial dans le coworking, c'est qu'on peut manger des cookies handmade. On peut les susauter, tu vois. Et peut-être même, tu as une machine à soda gratuite, tu vois. Et même, tu as dans un coin, pour qui le veut, des coussins mous dans lesquels tu peux t'asseoir en position fœtale pour bosser. C'est génial comment tu es pris en main par la boîte. Mais tu es pris en main selon quels critères ? C'est des critères qui sont quand même très agressifs. Et qu'est-ce qu'ils cachent ? Un rapport qui est un rapport de domination. Vous voyez ça ? Donc ça, c'est une première piste. Il y a une deuxième piste, mais qui est comparable, qui fait le complémentaire de la première. À côté de ce maternage duquel je vous parle, qui efface et qui cache les relations qui sont les relations de hiérarchie, il y a une deuxième possibilité, une deuxième position, La deuxième position, ce n'est pas le maternage, ce n'est pas le cocooning, ce n'est pas l'espèce de fusionnel complice, c'est la colère, la grosse colère. C'est-à-dire, celui-là qui va gérer sa team, tantôt il est super sympa, tantôt il est super cool, et puis, à un moment, on ne sait pas d'où ça vient, dans le cadre du management, mais à un moment, il pique la grosse colère. C'est-à-dire, il n'est pas dans un rapport d'adulte à adulte, mais au contraire, on serait presque tenté de dire que là, il pose un caprice. Et d'ailleurs, il est redouté par ceux-là même qui exécutent son vouloir, parce qu'ils ne savent jamais à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse au maternant, ou est-ce qu'il s'adresse à celui qui, à n'importe quel moment, peut éclater et faire le père fouettard. Soudain imposer un caprice, soudain imposer une rentabilité de dingue, soudain faire bosser la nuit, soudain envoyer des mails à minuit, en exigeant que le lendemain à 6h, il y a un dossier qui soit déposé sur son bureau. J'ai l'intuition, je pars sur cette piste, j'ai l'intuition qu'on est face là, pas simplement à un hasard des gestions d'équipe, mais j'ai l'intuition qu'il se joue quelque chose là qui est presque une programmatique managériale, qui est presque une programmatique des rapports hiérarchiques, des rapports de domination qui sont là au cœur de la société, là, ainsi facturé, mais qui sont masqués, qui sont grimés, de telle sorte qu'en définitive, les rapports que nous établissons avec ceux que nous n'osons plus nommé hiérarchie, eh ben, ceux-là sont des rapports qui sont tantôt maternants, tantôt tyranniques et capricieux, mais dans les deux cas, infantilisants.
Ça va ?
Vous le voyez ? Et peut-être que ça, en particulier, on peut le trouver en exercice, notamment dans les CDD, qui, dans les rapports de hiérarchie, ben, sont aujourd'hui les plus présents. Hein. Les CDI disparaissent à grand train, les statuts des salariés disparaissent, la précarité s'installe, et au cœur de la précarité, contrat à durée déterminée, le mode même de rapport qu'établissent les adultes entre eux est un rapport marqué au sommet d'infantilisation. D'où alors mon titre, quand même j'essaie de le justifier, quelle différence il y aurait entre un CDD et une FCDQD, sans doute pas.
Ça va ?
Ouais.
C'est clair pour tout le monde.
Peut-être qu'il y en a qui sont CDD parmi vous. Peut-être qu'il y en a qui voudraient dans la troisième partie, c'est l'apéro, mais il y a une quatrième partie avec un petit C10 utilitaire. Hein, on peut rentrer à 8-10 dedans, qui est éclairé sur le parking là-bas. On a refait les amortisseurs avec Rodolphe. Donc éventuellement, pour ceux qui sont en CDD, qui ne sont pas convaincus que ça nous mène à la fin. Peut gérer en quatrième partie un truc sympa. Ok. C'est... Voilà, mais je...
C'est piste, hein, on sait pas.
Tranquille, hein, entre nous, presque. C'est enregistré. Bon. Alors, pour réfléchir à ça, pour réfléchir à la prégnance, pour réfléchir à l'importance de l'immaturité dans les rapports entre adultes, je voudrais commencer par mobiliser un premier auteur qui, je crois, est celui qu'on a eu le premier d'intuition. Et c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux philosophe allemand dont on ne sait pas s'il aimait la fessée, qui est le fameux... Oui, très bien. Et le fameux Emmanuel Kant. Kant, pourquoi il est très intéressant? Parce que justement, il part un peu de ce principe. Il, pour le dire autrement, il retrouve l'intuition de Guyard. C'est quand même pas mal de sa part. Hein, je veux dire, moi, personnellement, je lui dis chapeau bas. Je veux dire, c'est quand même une force conceptuelle, hein, à ce niveau-là, quand même, Kant. Hein. Et pourquoi il retrouve les intuitions de Guyard deux siècles avant, hein. C'est là aussi où il est quand même remarquable. Hein. Il faut dire les choses, hein, moi je le dis franchement. Hein. Là où il est remarquable, c'est qu'il dit la chose suivante. Il dit, en fait, on pourrait presque dire que l'immense majorité des hommes, en fait, vivent dans un état de minorité. Alors là, je vais prendre la peine un petit peu de m'arrêter sur le mot parce qu'il pourrait être ambigu. On pourrait dire, ah oui, il y a des gens qui sont mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans, puis quand ils ont 18 ans, après ils sont majeurs. C'est pas ça que veut dire Kant. Kant, il dit pas, il y a un âge où on est traité comme des enfants, et on a raison d'être traité comme des enfants parce qu'on en est, et puis il y a un âge où on doit être traité comme des adultes parce qu'on est des adultes, et on s'adresse à des adultes. Kant, il dit, la séparation entre mineur et majeur, ça n'a rien à voir avec l'âge. Même plus loin, il dit, peut-être la majorité statistique, des gens qui sont majeurs, en des termes d'âge, est peut-être en fait composée de mineurs. La majorité des majeurs sont des mineurs. Ah bah c'est allemand, hein, c'est Kant, hein, c'est pas... La majorité des majeurs sont peut-être des mineurs. Peut-être qu'il y a plus de 50% des personnes adultes qui adorent être traitées comme des enfants. Ça va ? Quand il le dit alors on est dans les années 1780, 1784 pour être précis, hein. Par exemple, quand je pense à un des textes qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et il dit le drame, c'est quoi ? C'est qu'en fait, l'immense majorité des hommes adultes, des femmes adultes, hein, car la femme est un homme comme les autres, même si c'est là peut-être une pectorale qui pend. Mais enfin, l'immense majorité. L'immense majorité de ceux et de celles qui composent l'humanité, eh bien, en fait, adore avoir des tuteurs. Et le tuteur, c'est quoi ? C'est celui qui décide à ma place dans mon existence. Quand il dit, si vraiment j'étais majeur après 18 ans, si vraiment j'étais majeur après 18 ans, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il dit-il, je pourrais, je sais synthétiser un peu sa pensée, mais vous allez voir, elle est assez intéressante, je pourrais être à moi-même mon propre législateur, je pourrais être à moi-même mon propre docteur, je pourrais être à moi-même mon propre pasteur. Très intéressant quand il dit ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je pourrais être à moi-même mon propre législateur. Il le dit avant la Révolution française, quand même. C'est quand même assez admirable, hein ? Mais il a les yeux tournés aussi dans la Révolution française et les acquis des Lumières. Il dit, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive dans une société, un régime politique, dans lequel, au fond, le prince, parce que je pense qu'il faut quand même malgré tout un prince, le prince, il autorise, au fond, il s'arrange même pour qu'il puisse y avoir assez de liberté de pensée auprès du peuple, pour que les individus dans le peuple osent se mettre eux-mêmes en mouvement de pensée et peut-être même contribuer dans le débat public à donner leur avis sur la loi. Bon, quand reste malgré tout royaliste, il dit à la fin, c'est le roi et l'assemblée réunis autour du roi qui va décider. Mais enfin, le roi va consulter et écouter le peuple. Et le peuple aura droit de donner son avis sur la loi sous laquelle il va vivre. Donc c'est la raison pour laquelle Kant dit ce serait quand même vachement bien si on était tous des majeurs, et le majeur c'est celui qui est à lui-même son propre législateur. Il continue Kant, et puis il dit de la même manière nous devrions être pour chacun d'entre nous à nous-mêmes notre propre pasteur. Bien sûr, hein, c'est un parpaillon Kant, hein, il est comme tous les moches de l'époque. Hein. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire, récupérant l'héritage du protestantisme, c'est la pratique du libre examen. J'ai pas à avoir un directeur de conscience. Je ne vais pas avoir un bossuet, je ne vais pas avoir un curé à qui je vais confesser et qui va ensuite orienter mon existence, la diriger directeur de conscience, en me disant ce qu'il faut que je fasse pour que je reste un homme impeccable moralement, pour que j'accède au statut d'homme de bien. Kant dit l'homme de bien, c'est celui qui, de la même manière qu'il examine le texte sacré, est capable de faire un examen intérieur pour délibérer en lui et savoir, au fond, ce que c'est qu'être. Vous voyez, législateur pour soi-même, pasteur pour soi-même, et puis il dit docteur pour soi-même. Quand il dit pourquoi j'aurais besoin, pour régler ma conduite ordinaire, pour régler ma conduite ordinaire, pourquoi j'aurais besoin de me faire gronder, m'origéner en permanence par un docteur qui me dit arrête avec les tucs. Si j'étais suffisamment adulte et responsable, qu'est-ce que je fais sur l'assiette de tuc? Je la prends, je la partage. Je peux pas parce que je suis dans un état de minorité. Vous saisissez ça ? Donc je crois que c'est très important de commencer par ça, parce qu'au fond, on rentre dans la modernité, on rentre dans les temps modernes, on rentre dans l'idée de liberté, on rentre dans l'idée d'égalité, avec un auteur comme Kant qui est pourtant extrêmement lucide, presque à la hauteur de Guyard, hein, comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il nous annonce ? Il nous annonce, ne soyons pas dupes, c'est pas parce qu'on est rentré dans la modernité et que nous avons accès au libre examen, que nous avons accès à la possibilité de produire nos lois, que nous avons accès à régir nos vies privées sans que personne n'ait droit de jeter un coup d'œil dessus, c'est pas pour autant qu'on en est capable. Ou plus exactement, c'est pas pour autant qu'on ose le faire. Il y a une espèce de paresse, nous dit Kant, qui nous pousse à rester dans un état infantile, mineur. Et les mineurs, qui c'est qui les guide ? Qui sont les directeurs de conscience ? Des tuteurs. Qui sont les tuteurs, c'est pas nécessairement des gens majeurs, c'est sans doute pas des gens majeurs, c'est sans doute des gens qui sont mineurs aussi, qui adorent la minorité, qui adorent réduire les autres, maintenir les autres dans la minorité, parce que quand vous réduisez les autres dans la minorité, ils ont besoin de vous, et ça oriente votre existence, ça lui donne un sens. Donc il y a un jeu de dupes entre mineurs et tuteurs qui fait que les uns et les autres retardent le moment d'entrée dans la majorité. Ça va ? Là, c'est remarquable, parce qu'il nous fait rentrer dans la modernité Kant, à l'inverse de tout ce qu'on entend généralement, on dit, ben voilà, les hommes, capables, etc. Quand il dit, c'est pas si simple que ça, il y a un appel à l'infantilisation, peut-être même que dans cette salle, la majorité d'entre vous appelle à t'adresser. Peut-être, hein, c'est une hypothèse. Regarde, il y a une partie envers l'enfant. C'est une piste qu'est la piste cancienne. Ça va ? Bon, je sais ce que vous allez dire. Kant habite en besogne, peut-être qu'il brûle des étapes, peut-être qu'il essaie de se mettre à la hauteur de la pensée de Billard, etc. C'est pas si évident pour lui. Vous aimeriez avoir des preuves et des traces de ça. C'est la raison pour laquelle. Rien que pour vous.
Ce soir, à la Roque Bruxelles, je suis venu avec ce sac poubelle translucide.
Très évocateur, presque ironique. J'ai l'habitude de travailler des sacs noirs, opaques, parce que ça fait, ça allume le désir, comme dit Corneille. Mais bon, là, on est plutôt sur un érotisme cheap. Hein. Mais je ne parle pas à Rodolphe, mais on en parlera dans le fourgon tout à l'heure. Et alors, j'ai là, dans ce sac poubelle, des petits livrets de philo-forêt, vous le savez, dans lesquels je vais les distribuer, et dans lesquels j'ai recopié des passages de Kant. Ainsi, nous pourrons vérifier, vous pourrez vérifier, que je ne dis pas que des conneries, mais que je vais recopier. Comme à la coutumée, je passe parmi vous, je les distribue. J'espère qu'il y en a assez. S'il n'y en a pas assez, vous connaissez la rengaine, il faut le rappeler. Si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel régulier, vous me le dites, je donne un pour deux. C'est toujours ça d'économiser, parce que c'est épigné par les enfants de la commune, et c'est de l'ordre toxique. Hein. Moi, il y en a, mieux c'est. Hein, bon, c'est pas pour moi non plus, je veux dire. Donc, si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel, vous me le dites, je donne un pour deux. Si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel et votre amant ou votre amant, vous me le dites, j'en donne un pour trois. Sous condition, bien sûr, que vous soyez tous les trois ensemble, là, vous me le dites, hein. C'est pas qu'il y en a. Alors, on ouvre, bien sûr, je le distribue, mais on n'ouvre pas, hein, vous connaissez la rengaine, on n'ouvre pas, mais je dis bien sûr que vous la fermez. Je vous invite à ouvrir à la culture de la croix. vous invite à ouvrir ma nouvelle pub sur le fun. Je vous ai trouvé donc un extrait de... Je vous ai dessiné un endroit dans ce livre. Parce que... Mais on ne le voit jamais assez en ce livre. Je me suis dit, à un moment ou à un autre, je me dirais, il y en a marre de la discrimination. Pourquoi toujours des bonnes choses? Et donc, je vais commencer. Alors, qu'est-ce que les Lumières? C'est ce texte de 1784, qui est d'ailleurs peut-être en ce livre, après tout. Que je peux faire beaucoup. C'est un texte très très célèbre. C'est pourquoi j'ai souhaité vous le rapporter. Parce qu'il pose la devise des Lumières, philosophie des Lumières, siècle des Lumières, et en même temps, vous le voyez, il articule à la question de la minorité, et donc de la fessée des Lumières. Qu'est-ce que les Lumières? Nous dit Kant.
On va dire un petit peu.
Ausweis, quand même. La sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Et ça, c'est de la belle. Un autre mot encore. Sapere aude. C'est du latin. Sapere. Sapeur, les pompiers, en effet. Aude. Aude, l'eau. Narbonne. Sapeur-pompier de Narbonne. Il va à Narbonne. Je ne sais pas, on essaye.
On va tous faire la femme pendant l'ombre.
Sapere aude. Ose penser. Ose penser. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Eh bien, j'aime beaucoup ça parce qu'il est en train de nous dire que la devise des Lumières, c'est une devise en négatif. Toujours on dit les Lumières, la modernité, c'est la liberté. Non, c'est pas ça. Les Lumières, la modernité, c'est pas la liberté. C'est la guerre en soi contre l'obscurantisme. C'est le combat en soi contre le mineur en moi. C'est une définition négative, c'est pas une définition en positif. Définition en positif, il y en a des milliers dans l'histoire de l'humanité, mais on a une première définition qui est en fait négative. Ose penser pour te défaire du mineur. C'est ça. Et donc ça veut dire qu'on peut tout repenser l'anthropologie humaine, non pas par rapport à la question de la liberté, mais par rapport à qu'est-ce qui fait que les hommes aiment l'esclavage. Et c'est peut-être ça la modernité. Non pas trouver l'homme comme un être de lumière, béni par Dieu, pourquoi pas, mais penser l'homme comme étant l'homme qui se complète à l'obscur, qui se complète de la minorité, et comment faire pour qu'il s'émancipe. Vous voyez ça? Alors, je vais continuer mon enquête. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin maintenant, parce que si j'ai repéré ce que vient de nous dire ici Kant, ça confirme donc mon intuition inaugurale, ça veut dire que finalement c'est pas si exceptionnel que nous établissions des relations infantiles, tantôt maternantes, tantôt capricieuses, avec nos frères et nos sœurs humains et humaines, mais je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin, creuser un peu plus, et voir comment ça se fait, parce que ça Kant le creuse pas assez. Comment ça se fait qu'on aime tant la minorité? D'où ça vient qu'on aime tant être infantilisé? Je vais regarder du côté des mineurs. Puis dans un deuxième mouvement, je vais regarder du côté des tuteurs. Comment ça se fait que les tuteurs, ils adorent nous traiter de manière mineure? Vous voyez? Donc ça va être les deux pistes que je vais creuser à partir de Kant. Première piste, d'où vient que nous adorons être mineurs? Et puis ensuite, d'où vient que ceux qui nous dominent adorent? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle maintenant il faut convoquer, et ça va être le second tuteur auquel je vais faire appel, je vais convoquer Philippe Muret, duquel je vous avais parlé. Philippe Muret, donc on est face à un auteur français qui, on en avait parlé ensemble, qui invente le concept d'homo festivus dans les années 90. Qu'est-ce que c'est que l'homo festivus? Il dit, il remplace l'homo sapiens. L'homo sapiens, c'est l'homme qui sait qui c'est. Qui sait? Ah, c'est l'homme. Mais quel homme? L'homme qui sait. Qui sait? L'homo sapiens. L'homo sapiens, c'est l'homme qui sait qui c'est. Je vous ai répondu. C'est l'homme qui sait. Qui sait? Vous n'avez pas répété comme un con. L'homme qui sait. Je vais pas répéter. Je m'arrête là parce que c'est un peu foiré. Mais Philippe Muret dit on est passé à autre chose, on est passé à l'homme qui veut s'amuser. L'homme festif. L'homme qui veut s'amuser tout le temps. L'homme qui veut tout le temps s'amuser. Alors qu'est-ce que c'est que l'homme qui veut tout le temps s'amuser? On a beaucoup de mal à trouver sa définition. Et il s'amuse. Il est coquin, il ne veut pas nous la donner. D'ailleurs, il dit l'homo festivus, c'est peut-être une catégorie anthropologique, mais c'est peut-être un maître de fiction. Puis moi qui adore les littérateurs, celle qui a force de lire les littérateurs, peut-être que je fais de la littérature. Mais enfin, l'homo festivus festivus, l'homme de la fête, peut-être on trouve des traces dès le 19e siècle. Vous dire qu'il y a... Qu'est-ce qu'il qualifie? Pour essayer de comprendre ce qu'il qualifie l'homo festivus festivus, l'homme qui ne fait de sa vie qu'un amusement. Je vais vous prendre un exemple. C'est le mec, pour aller à son espace de coworking, il prend une trottinette. Tu te dis, je sais pas, il y a des bus, quoi, tu vois. Les bus, s'il se fait chier avec les voitures, tu prends un bus, ça rase. C'est même pas compliqué de prendre un bus. Il prend pas un bus. Il prend pas un bus parce que avec une trottinette, il va plus vite au boulot. Pourquoi il faut qu'il aille plus vite au boulot? Qui lui a donné l'ordre de venir 20 minutes avant, une demi-heure avant? C'est pas son patron, c'est de lui-même qui prend la trottinette. C'est pas le patron qui lui paie son abonnement à la trottinette. Donc le symptôme de la trottinette est vachement signifiant, parce qu'il veut dire qu'il se joue là quelque chose qui a à voir avec cette chose très infantile, parce qu'il devance l'injonction du patron, il n'a même plus besoin de l'appel du patron, il se dépêche de prendre une trottinette pour aller plus vite que les voitures et les autobus au boulot. Faut vraiment être. Enfin, faut vraiment être bon pour se dépêcher d'aller bosser, quoi. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il prend pour se dépêcher d'aller bosser alors qu'il n'est pas contraint d'aller bosser parce qu'il va arriver plus tôt que les autres? Qu'est-ce qu'il prend? Ben, le symbole même de quelque chose qui le maintient dans un état d'infantilité. Vous voyez? On peut démarrer avec ça. Notre mec qui a la trottinette. Et bien, notre mec qui a la trottinette, quand il porte la trottinette avec lui, quand il n'a même pas besoin du patron pour faire des heures sup, quand il n'a même pas besoin du patron pour passer pour un bébé parce qu'il vient avec sa trottinette, et bien ce type-là, qu'est-ce qu'il caractérise? Et bien si on essaie de remonter à la base, et bien avec le mec, il dit, ce mec a un problème avec le sexe. Ouais. Méfiez-vous déjà avec la trottinette. Femme à lunettes. Déjà, mais mec à trottinette, méfiez-vous. Pourquoi ce mec a parlé avec le sexe? Parce que qu'est-ce que c'est que le sexe? Qu'est-ce que c'est que le sexe? Qu'est-ce que c'est que le sexe? C'est ça, ça. En un mot, le sexe, ça sectionne. Étonnant, hein? Mais c'est vrai, hein? Je sais pas si vous avez jamais fait l'amour.
Quoi?
Voilà, justement, je vais développer. C'est intéressant. Hein? En fait, le truc, quand tu fais l'amour, c'est qu'à un moment, enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, moi je sais pas. À un moment, ça s'arrête. Tu vois? Et pourtant, c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se joue dans la sexualité? Dans la sexualité, il se joue ce moment délicieux où, soudain, je me perds dans l'autre. L'autre se perd en moi, et il y a une espèce de fusion qui est absolument délicieuse. La coupure qui m'a séparé de l'autre, la coupure qui faisait que j'étais un être enfermé dans ma solitude, soudain, dans l'acte d'amour, enfin, cette coupure, elle cesse. Et dans la volupté amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus celui qui est coupé de l'autre, qui est coupé du monde. Je ne suis plus celui qui est exclu. L'existence, qui est séparée des autres et du monde. Mais, quand je fais une expérience amoureuse, et ben, au moment du grand chavirement sensuel, qu'est-ce qui se passe? Cette coupure s'abolit. Et enfin, je découvre avec volupté un état qui peut-être faire songer à l'état du tout petit enfant qui ne savait même pas qu'il existait, qui ne disait pas « je », qui ne savait pas qu'il était un « moi », et qui se diluait ainsi dans le monde. Peut-être que la volupté amoureuse, elle a à voir avec ce vague souvenir du temps où nous étions des enfants et nous n'étions pas séparés du monde, nous n'avions pas conscience d'un moi séparé d'un non-moi. Bah, Muret va même plus loin, lui dit en définitive, c'est pas simplement le petit enfant en nous que nous retrouvons dans l'orgasme, mais aussi dans l'orgasme, ce que nous trouvons, bah, c'est le plaisir enfin d'être soulagé, d'être séparé. D'être séparés. Parce que la vie est une tragédie, nous sommes toujours séparés. Quand nous rencontrons les autres, on n'arrive jamais à en faire le tour. Quand on rencontre les autres, on n'est jamais sûr d'en faire le tour, on n'est jamais sûr d'ailleurs de les rencontrer. Il reste des énigmes, ils sont insaisissables, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Le monde, des fois, on a des extases de ravissement, comme par exemple, on voit un coucher de soleil après qu'on a fumé un gros bédo, par exemple, tu vois. Mais ça dure quoi, 2-3 heures, pas plus. Bon, et c'est rare, c'est vraiment des moments très rares que le moment où on en finit avec, le moment où on en finit avec la sexualité. Et donc, en fait, avoir une relation sexuelle, c'est avoir une relation dont on sait qu'elle n'est pas durable. Enfin, il y a durable dedans, si vous voulez. Elle ne peut pas se prolonger à vitam à éternel. À un moment ou un autre, ça va s'arrêter et nous allons retomber à notre séparation. Sexe, section, séparation. Être adulte, en finir avec la trottinette. Nous y sommes. En finir avec la trottinette, c'est assumer tragiquement son destin au monde. Et assumer tragiquement son destin au monde, c'est être séparé des autres, c'est ne pas pouvoir accéder à la fusion, c'est en finir avec les rapports qui sont les rapports maternants, dans lesquels je suis enveloppé par les autres, je suis en fusion avec ma team, je suis dans un rapport d'extrême complicité avec mon chef manager. Tu vois ? Et donc, Murray dit, le drame, c'est quoi ? C'est qu'il s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est dur, ce soir. Hein ? L'homo festivus, et ce qui caractérise l'homo festivus, c'est qu'en fait, il n'a pas assumé le fait que je suis marqué au sceau d'une existence tragique. Je suis marqué au sceau d'une relation avec l'autre qui est marqué au sceau de la mécompréhension, de la confrontation et de la séparation. Ouais. Et donc, nous sommes tous tentés d'être mineurs. Nous sommes tous tentés, alors je ne vais pas dire d'un pansexualisme, parce que c'est tout le contraire en fait, nous sommes tous tentés d'un trottinettisme métaphysique. Et le trottinettisme métaphysique, c'est s'imaginer que dans le monde, il n'y a pas d'aspérité, dans le monde, il n'y a pas de violence, dans le monde, il n'y a pas de conflit. Il n'y a que du complice, du prolongement de moi et un rapport materno-maternel fusionnel. Gaïa, Pablo Servigné, il a les cheveux mi-longs, il s'habille avec des pulls informes. Comment peut-on prendre sérieux ce mec ? Il est travaillé par le mot. Je suis sûr qu'il a une trottinette. Ou alors il a des chaussures à semelles molles. Enfin, la piste ici que j'essaie de vous exposer, tant bien que mal, c'est cette piste-là, reprise par Murray, qui vise à dire qu'au fond, il y a une nouvelle humanité qui est apparue. Cette nouvelle humanité, il la pressent dès le 19e, elle va s'accentuer après la Seconde Guerre mondiale. Et cette humanité, qu'est-ce qui la caractérise ? C'est une humanité qui refuse la conflictualité, qui refuse la confrontation à autrui. Et qui veut au contraire à tout prix la compréhension, qui veut à tout prix le partage, qui veut à tout prix la fusion. Mais ceux-là qui pourraient sembler être des qualités morales, humaines, sont en fait des manifestations déguisées d'une volonté de se maintenir dans un état d'indifférenciation, volonté de se maintenir dans un état dans lequel il y a la confusion permanente entre le moi et le non-moi, volonté régressive, qui va se décliner aussi en politique, sous la forme de la politique réduite au rang du spectacle, du ludique, du compassionnel, de la bienveillance, du en même temps. C'est alors, hein, on n'a pas d'enceinte. Alors vous allez dire, ok, d'accord, un trottinette, machin, tout, on aimerait quand même des. Vous en avez. Elles sont là, entre vos petites mains fébriles, que vous allez rejoindre sur votre chien. Je vous invite maintenant à développer plus encore. Je vous invite simplement en même temps, en tant qu'il est marqué au sein de la régression de la PC. Oh. Ah, c'est magique, ça. Là, on est dans du bon, hein. On est dans du bon.
Et je vous ai trouvé un passage de Philippe Murray.
Donc, comme à l'accoutumée, hein, vous avez vu que moi je travaille comme une copie noire et blanc, de telle sorte que vous pouvez revenir à la maison présentez les dessins aux enfants. Vous pouvez aussi les colorier et vous pouvez les accrocher d'une manière au plus haut familial. Motif légitime de fierté, pourvu bien sûr que l'enfant ne bave pas sur ce dessin. Parce qu'il dit c'est très grâce. Enfin, en tout cas, je pense que si vous travaillez bien soigné, ça pourra vous donner du crédit auprès de l'assistance sociale qui viendra rendre visite. Oui. Et qui voit que vous êtes dans un travail psychomoteur avec Jean qui est là, que vous avez en famille d'accueil. Alors, nous allons lire ce passage de Muret qui, je crois, très intéressant parce qu'il montre en quoi, au fond, je reprends un peu la thématique, l'état de minorité qui est majoritaire selon Kant chez l'homme, d'où il vient, je vais le dire autrement, en une phrase fulgurante, c'est pas qu'on n'ose pas penser, c'est qu'on n'est pas capable d'assumer le tragique de l'existence. Et le tragique de l'existence, ben c'est le fait que la vie, elle est tragique, parce qu'elle se marque au sens de la séparation du divorce tout le temps. Séparation de soi avec les hommes, de soi avec les autres. Ça va ? Lisons le texte de Muret. Donc c'est un entretien sur l'Homo Festivus que j'ai trouvé en fait sur internet. Je ne sais pas si. Après j'ai pas réussi à le retrouver dans. Il y a un gros volume qui a été publié chez Omnibus, et ça ressemblait pas mal de ces textes. J'ai pas trouvé cet entretien. Donc avec Roch, Alba et Caro. Je ne sais pas qui sont ces gens. Et voilà ce que nous dit Muret. C'est le moderne de la nouvelle génération dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé, de toute façon criminel à ses yeux, de l'humanité, qui est tellement poli, épuré jusqu'à l'os, qu'il en est translucide. C'est quelqu'un qui a évacué la vieille dualité, anciennement constitutive de l'humain, ainsi que tous les clivages, les contradictions, les anciennes divisions sexuelles ou autres. Donc voyez-vous, moi j'ai un peu construit à l'envers, hein. J'ai démarré des divisions sexuelles, parce que j'essayais de parler d'une chose qui vous cause, hein. Mais lui s'achève là-dessus, mais il montre bien que les premières dualités, elles sont peut-être pas que sexuelles. Et comme je vous le disais, elles sont peut-être à voir avec le politique aussi, elles ont peut-être à voir avec le métaphysique. Donc c'est par ça qu'il faut commencer. Peut-être qu'il y a en nous tous l'appel de la fessée, et en nous toutes aussi, hein, là-dessus il faut y aller quand même. Et l'appel de la fessée, il renvoie peut-être à des racines qui sont des racines politiques, qui sont les racines du en même temps, du à la fois à gauche à droite. Elle renvoie à des racines politiques qui sont aussi le refus de la conflictualité, le refus peut-être aussi de la lutte de classe. Et elle renvoie aussi à des racines plus profondes qui sont métaphysiques. Le sentiment d'une exclusion métaphysique, c'est le propre de l'homme. Et à l'inverse, on pourrait presque dire que le discours aujourd'hui dominant, qui se teinte d'écologisme et qui n'arrête pas de parler de la fusion avec la nature, peut-être que ce n'est pas tant un discours écologique qu'un discours d'un mineur régressif qui essaie de trouver une justification naturaliste à ses travers, qui sont les travers de grande immaturité. Ça peut être une piste, elle vous semble. Ouais. Bon, là, j'ai été un peu méchant, je ne vous le cache pas, j'ai tapé dans la gueule au mineur qui appelle les tuteurs. Et là, on a bien confirmation de l'intuition que l'intuition qu'ancienne. Je voudrais maintenant, dans un deuxième mouvement, voir ce qu'il en est du côté du patron qui vous met le CDD. Je voudrais savoir si de son côté aussi, il y a un appel du côté de l'infantilité. Je vais essayer de voir si du côté de ceux qui dominent, il n'y a pas aussi des travers qui renvoient à une passion de la minorité, une passion de l'infantilisation, une passion du maternage ou du capricieux. Alors, pour ce faire, c'est pareil, hein, je vais essayer de parler de choses qui vous sont familières, et c'est là où il faut que je mobilise Freud, alors qu'il n'est pas Freud encore. Freud était Freud tout petit, je pense même qu'il est né Freud, hein. Mais si vous voulez, il y a Freud et Freud, hein. C'est comme ils disaient les inconnus, il y a chasseur et chasseur, il y a Freud et Freud. Freud, quoi. À partir de, on pourrait dire, de 1916, peut-être, quand il commence à mettre en place les topiques. Mais en fait, ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'il commence à poser un peu comme ça son système intellectuel, même avant le XXe siècle, et notamment on a retrouvé des correspondances avec un poteau à lui qui s'appelait Fliess, Et quand il commence à discuter avec lui, il commence à réfléchir, sur le stade anal. Alors, qui veut témoigner? Non? Bon, alors, je vais prendre quelqu'un dans la salle. Alors, stade anal. Souvenez-vous. Souvenez-vous, alors peut-être que vous allez avoir du mal à vous souvenir, mais très vite ça va remonter à la surface. Ça dépend ce que vous avez à manger. Souvenez-vous, vous deviez rentrer à l'école maternelle. Pour ceux qui, parmi vous, ils sont allés. Et il y avait quand même une condition qui était posée. C'est la maternelle. Jusqu'à 5 ans, on laissait quand même un peu
derrière
la couche.
Ça pourrait être au collège.
Pardon ?
Ça pourrait être au collège.
C'est à quel âge pour toi ? Bon, toujours est-il, mais faut pas juger. Ce qui est intéressant, Freud dit la chose suivante, il nous dit c'est quand même une étape très marquante. Alors pour nous, elle est symboliquement marquée par le fait que ça va conditionner l'entrée pour le petit enfant dans l'école. Donc ça représente beaucoup. Il y a un très gros investissement psychique de la part des parents, et l'enfant qui est une véritable éponge, il ressent ça. Mais Freud, le jeune Freud, si vous pourrez le dire comme ça, il se rend compte que c'est pas simplement marqué par rapport à contexte qui pourrait être comme l'autre rentrer dans l'école, mais il se rend compte qu'il y a un très fort investissement de la part de tous les parents du monde pour savoir si l'enfant peut être propre. Et quand est-ce que l'enfant il est propre? Ben, c'est quand il arrive à être capable de ne pas poser sa pêche n'importe quand. Et alors, il s'est passé comme quelques années, l'enfant est quand même capable de verbaliser, il arrive à rentrer en relation avec ses parents, il a réussi à dissocier le moi du non-moi, et il se rend compte de deux choses qui sont importantes. La première des choses, alors je m'excuse, je parle familièrement, mais après tout, on se connaît un petit peu maintenant, quand on commence à jouer avec ses sphincters, c'est bon. Tu confirmes ? T'as plus envie, durer. Ouais, je prends des risques, Mais ça, c'est vachement important dans un stade de développement de l'enfant, le stade là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Dans la maîtrise qu'il a de ses sphincters, déjà, il arrive à une plasticité du plaisir. C'est-à-dire, il arrive à commencer à déplacer le plaisir dans la zone qui est la zone neurogénitale. Avant, vous savez, le bébé, il prend son plaisir par où ça vient. Essentiellement, stade buccal, par le plaisir de la tété. Et là, il commence à déplacer le truc. Il dit, mais c'est génial par en dessous. Non seulement c'est pas en dessous, mais si je commence un petit peu à gérer ma race les muscles. Alors ça c'est vachement important. Enfin bon, pas trop s'étendre là-dessus. Je veux dire, ça c'est vachement important pour la structure de l'enfant. Donc l'enfant déjà il se rend compte que la chose qui est très importante, c'est que le stade anal. C'est quelque chose qui le fait rentrer dans une maîtrise de lui-même. Mais ce n'est pas qu'une maîtrise de lui-même, c'est la maîtrise des parents. Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils guettent? Que ça sorte au moins et au pot. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui a commencé à contrôler ses sphincters. Lui qui n'est pas encore totalement domestiqué par la morale. Lui, il se rend compte que non seulement il peut jouir de ce qu'il fait au stade, dans la zone neurogénitale, mais il peut jouir aussi du stress qu'il engendre à ses parents. Oui, parce que l'enfant a une grande plasticité psychique et le principe du plaisir, il n'est pas encore normé par la société. Plus tard, il offrira des dessins à maman. Plus tard, il fera en pâte à modeler un cendrier pour papa. Et donc là, il aura une vraie gratification, un vrai plaisir. Mais c'est très socialisé tout ça. Pour l'instant, ses plaisirs, il les prend de manière un petit peu brutale, un petit peu pas encore très civilisé. Il joue avec son royaume-bulier, et puis il jouit de se rendre compte de l'emprise qu'il a sur ses parents. Il jouit de voir que finalement, il suffit de retarder le moment pour que les parents commencent à flipper très fort. Et elles se disent, machin, tout ça, suppositoire de vasine. Et l'autre, il est comme un prince sur son trône. Il gère tout. Ça, c'est vachement important parce que ça veut dire que le stade anal. Alors, vous allez dire, on n'est pas éloigné du sujet. Le stade anal, c'est toujours un stade salicanal. Le stade anal, c'est le moment où vous maîtrisez cette zone urogénitale. Et dans l'instant où vous maîtrisez vos capacités excrétives, vous les maîtrisez en tant que vous pouvez faire du chantage avec vos parents. Et vous exercez sur eux une domination. Une domination. Vous les prenez en otage. Et vous faites selon votre bon plaisir. Vous les faites agir selon votre bon plaisir, de telle sorte qu'ici vous établissez un rapport de domination sadique qui est associé à la capacité que vous avez de retenir, de confisquer, de garder en vous, de ne pas donner. Vous me suivez toujours? Il y en a des qui sont bloqués au stade sado-anal. Non mais c'est pas de problème, hein. De toute façon on fera un groupe de parole en cinquième partie. On a tous des traumatismes, il y en a qui sont bloqués au stade par exemple, buccal, par exemple, toute leur vie, ils ont fumé des gros cigares, ou ils ont mangé du sucré. Il y en a qui sont bloqués au stade sado-anal. Et quand vous êtes bloqué au stade sado-anal, qu'est-ce que vous faites? Vous jouissez de dominer les autres en confisquant. Ça va? Et qu'est-ce que vous confisquez? Votre caca. Sauf qu'un peu plus tard, c'est pas que ça. Et en 1897, dans ses entretiens avec Fliss, qu'est-ce qu'il dit? Freud, il dit, eh ben, quand ça commence à se civiliser, cette histoire, la névrose sadicanale, elle se décline sous quelle forme? Sous la forme de ceux qui capitalisent l'argent, le gardent pour eux-mêmes et jouissent de ne pas le donner à ceux qui sont dehors et qui attendent. Et d'ailleurs, il dit ce qui est vachement intéressant, et il fait une enquête incroyable, il dit, on se balade dans des tas de civilisations, on se balade dans des tas de langues, et qu'est-ce qu'on découvre? C'est le vocabulaire de l'échange commercial et le vocabulaire de l'argent ou de la richesse thésaurisée emploient presque toujours des métaphores qui sont des métaphores excrémentielles. Alors il prend l'exemple que l'on trouve en allemand comme en France, hein, on va faire la grosse commission. C'est Freud, hein, c'est pas moi, hein, le billard il est relou. Non, c'est pas le billard, hein, c'est Freud. Hein, moi je suis une boucarde. Pour répondre à l'autre exemple aussi que Freud ne prend pas. Mais qu'on peut trouver aussi, qu'on retrouve chez les Aztèques et qu'on retrouve dans les manuels d'artisanat pour mettre en place des mines et pour exploiter des filons d'argent ou des filons d'or. Eh bien, on retrouve dans les pays aztèques, comme dans ces manuels du 15-16e siècle, la même idée, c'est que, en fait, l'or et l'argent, ce sont pas des métaux précieux, ce sont des excrétions divines. C'est-à-dire, c'est la coagulation des excréments divins. Donc, on retrouve bien une conjonction des figures de la richesse concentrée et des figures de la merde. Et leur développement, c'est le mot merde, en fait, je crois qu'il. Et développant l'analyse, il va encore un petit peu plus loin, Freud, et puis dit, en fait, de la même manière qu'il y a des névroses qui organisent la société, qui font que pour certains, bah, cette névrose-là leur permet d'avoir leur place dans la société, Freud continue, puis il dit une société qui est basée sur l'argent capitalisé, c'est une société qui va encourager sur les postes à responsabilité ceux qui sont bloqués par la névrose au stade sado-anal. Il n'en dit pas plus, on a 97, il laisse tomber la métaphore, elle ne va pas assez souvent dans ses textes. Par contre, Bernard Maris, vous connaissez Bernard Maris, hein, qui était l'économiste qui a été malheureusement assassiné lors du massacre de Charlie Hebdo en 2015, quelques années avant, il avait écrit un bouquin avec un psychanalyste, où il avait repris la thèse de Freud. Il avait repris la thèse de Freud, et il avait développé avec le psychanalyste en disant la chose suivante. Au fond, ce que pressent Freud, et puis qui délaisse, mais qu'on peut développer maintenant, c'est que le capitalisme, qu'est-ce qu'il est? Il est l'extension de cette névrose, et il est, au fond, ce système économique et politique qui donne des postes à responsabilité, les postes de dominants, à ceux-là qui sont dominants car exerçant un rapport sadique. Mais comment peuvent-ils l'exercer? Justement en reprenant métaphoriquement cette confiscation de l'excrément sous une autre déclinaison, qui est la confiscation de la richesse, la confiscation des biens et de l'argent. Et nos deux auteurs ont développé la thèse jusqu'à dire qu'au fond, au cœur du capitalisme, il y a ce qu'ils appellent une véritable pulsion de mort, parce que très souvent on dit on est face là à une économie qui est une économie qui produit des richesses, et en fait, se nourrissant de fraude, qu'est-ce qu'ils disent? On est face à une économie qui ne produit pas des richesses et qui en fait la confisque. C'est l'essence même du capitalisme. Et pourquoi il y a-t-il confiscation? Parce qu'au poste à commande, ceux-là qui dominent sont des enfants qui n'ont pas grandi. Carlos Ghosn. Vous voyez Satan? Vous n'avez pas l'impression qu'il est constipé, lui? Et ben voilà, la démonstration est faite. Et il dit sa gueule, mais il le porte sur sa gueule. Dis-moi. Et qu'est-ce que ça signifie? Dans la lecture de Marmis, revisitant la pensée de Foucault. Et bien c'est que, en fait, bien sûr, avec Muret, on peut dire, du côté des gens qui sont dans l'état de minorité, il y a effectivement une volonté de régresser au stade infantile parce qu'il y a la peur de la confrontation. Mais de l'autre côté, au sommet, il ne faut pas s'imaginer qu'on a des hommes qui sont arrivés à la maturité parce qu'ils sont aux responsabilités. C'est exactement le contraire. On leur a donné des responsabilités parce qu'ils sont incapables d'accéder à la majorité, parce qu'ils sont toujours dans un stade régressif et ils jouissent primitivement, sadiquement, de ne pas redistribuer la richesse produite. CDD fait ses décultés. CQFD. Ça va? C'est clair? Bon, on a bien avancé quand même. On a bien avancé. Parce que l'intuition que Kant reprend de Guyard, elle est maintenant confirmée aux deux pôles du rapport infantile. Tant du côté de celui qui le subit que du côté de celui qui l'exerce. D'un côté comme de l'autre, on a des enfants qui refusent de grandir. Il est temps de conclure, messieurs dames. Parce qu'il faudrait quand même qu'on arrive à sortir un peu du truc. Hein, parce que là, on tourne autour du pont, on est quand même assis dessus. Comment faire pour en sortir? En conclusion, je voudrais vous proposer deux pistes. Qui sont les pistes peut-être énoncées par Muret lui-même et je dirais dans le prolongement de la pensée freudienne. Bon, si on voulait rentrer un peu dans la majorité, si on voulait oser penser, j'en prends le mot de toi. Si on voulait se défaire du mineur en nous, que faudrait-il? Eh bien, si je reprends Freud, vous l'avez compris, on a tous des névroses. Vous, beaucoup plus d'ailleurs. Enfin, on a tous des névroses. Le problème, c'est pas d'en avoir. On en aura tous et on ne pourra pas s'en débarrasser. Tout le travail de Freud et des psychanalystes qui vont suivre, c'est de dire il ne s'agit pas de vouloir arriver à un état de pureté, mais il s'agit d'essayer de trouver comment nos névroses peuvent être au service d'une vie adulte, responsable, socialement supportable, et pour nous et pour les autres. Un exemple, hein, vous avez sans doute une pulsion violente, au fond de vous, il y a un assassin qui adore éventrer. C'est mal. Cette jouissance que vous avez d'éventrer les corps des autres, essayez de la supprimer, vous ne pouvez pas l'effacer. Essayez de la supprimer, devenez chirurgien. Chirurgien est un assassin qui a réussi. C'est pas un problème. Et donc, en fait, sur la lumière de foot, on se dit ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu la même chose? C'est-à-dire, c'est malheureux que des gens qui soient dans la. Soient serrés du cul. Hein? On leur confie les gros postes à responsabilité en des termes économiques. C'est dommage que ceux qui soient dans un rapport sadoanal, on leur donne les clés des banques, les clés des grosses entreprises, et il serait intéressant que cette névrose, cette volonté de confiscation, cette jouissance d'IA à mettre à portée des autres quelque chose qu'ils n'auront jamais, il faudrait peut-être déplacer dans un champ social qui soit productif et bénéfique pour tous. C'est la raison pour laquelle je suggère, hein, ces propositions que je fais ce soir à Marine Bruxelles, j'espère bien un jour qu'elle sera reprise dans un programme politique. Je suggère la chose suivante, c'est qu'en fait, tous ceux qui ont des responsabilités économiques importantes, qui manient l'argent mais qui le confisquent, s'engagent peut-être maintenant dans les manèges forains, où ils auraient comme fonction, vous savez, de tirer sur le pompon, de le mettre toujours à la portée des mains des enfants, mais sadiquement. Au moment où enfin l'enfant effleure le cordon, tiré dessus pour qu'il soit hors de sa portée. Il est clair qu'on est là vraiment dans un rapport sadique, un rapport de confiscation, jouissif. C'est l'avenir tout rêvé, je pense, pour le soir. Alors après, il faut convaincre son avocat, et puis de jouer derrière. Mais on peut faire des postes réservés, comme ça, pour des gens qui sont dans cette névrose et qui sont sur des postes à responsabilité dramatique au sein des cliniques hospitalistes. On peut les orienter aussi sur gardien de musée, par exemple. D'ailleurs, j'ai amusement sur les tableaux. Avec un air un peu comme ça, inquisiteur, mauvais, et s'approchant, dès lors que vous aussi vous approchez du tableau, comme si c'était leur tableau. Alors, ils n'ont jamais vu, enfin, ça les fait jouir, faire en sorte qu'on puisse vous approcher. Donc, vous savez, il y a plein comme ça de possibilités de reconversion. Alors, maintenant, ça nous permettrait de nous débarrasser de ces engences dangereuses qui sont sur les postes au pouvoir économique. Après, il faudrait faire un tour de notre côté. Il faudrait que nous osions le tragique, il faudrait que nous osions la séparation. Il y a un autre mot qui est utilisé par Muret, et je vais conclure par ce mot-là. En fait, c'est pas oser penser par soi-même. Muret, il est vachement plus intéressant, il dit il faut oser le mal. Oser le mal. C'est-à-dire, l'homme dans la minorité, l'homo festivus, l'homme de la trottinette, il veut toujours la fusion, il veut toujours la complicité, il veut être le copain avec tout le monde. Il veut être le copain avec la nature, il veut être le copain avec la biodiversité, il veut être le copain avec la gauche et la droite, il veut le tout en même temps, tout le temps. Eh bien, Muret dit non, il faut arrêter avec le bien. Il faut arrêter, il n'y a rien de pire que le bien. Il n'y a, a rien de plus méchant que quelqu'un qui veut le bien. Et donc Muret dit, soyez méchant. Ça vous évitera de faire ce bien qui est pire encore que la méchanceté que vous cultivez. Soyez méchant, ça veut dire oser le conflit, oser la séparation, oser la différence absolue, oser ne pas pouvoir se rapprocher de l'autre, par exemple, mettre une limite entre soi et l'autre. Et ça, il y a quelque chose qui le fait très très bien, c'est la littérature. Parce que la littérature, c'est tout sauf des feel good books. Parce que le feel good book, il retrouve le travers de l'homo festivus, festivus et la minorité. On voudrait être materné. Alors, il faudrait plutôt les martyrs. On voudrait être materné par ces livres-là qui nous font du bien. Et Muret nous dit, non, en fait, la littérature, quand est-ce qu'elle est bonne? Quand est-ce qu'elle est bonne? En fait, quand il y a le méchant. Vous ne pouvez pas raconter une histoire où tout va bien. Vous imaginez une histoire qui commence par, bah, en fait, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est pas un bon livre. C'est pas un bon livre. Pour que vous arriviez à ces conclusions heureuses, il faut passer par des épreuves. Et pour passer par les épreuves, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être confronté au mal. Donc la confrontation au mal, l'expérience de la séparation qui nous fait rentrer dans la majorité, c'est quoi? C'est l'expérience de la littérature. La littérature, c'est rien d'autre que la confrontation au méchant, c'est la confrontation à celui qui est trahissable, que je porte peut-être d'ailleurs en moi, c'est la confrontation à ce dont je ne voudrais pas entendre parler, et qui pourtant prend corps dans le roman, et qui fait alors qu'il y a roman et narration, parce que pour qu'il y ait roman, narration, littérature et histoire, il faut qu'il y ait un méchant, et si possible, un méchant très méchant. Alfred Hitchcock disait, une bonne histoire, elle sera d'autant plus bonne que le méchant sera d'autant plus méchant. Et la clé de la littérature, c'est ça. C'est de promouvoir la méchanceté. Si vous arrivez dans la littérature à promouvoir la méchanceté, celui-là qui lit le livre est confronté à la différence, il est confronté à la séparation, il est confronté au tragique, et en tant qu'il est confronté au tragique, il s'oblige à quitter la bataille. Et alors, il peut oser penser toute sa condition de majeur. Ça va? Ça, c'est une piste vachement intéressante. C'est une piste vachement intéressante, parce que pour moi, en lisant des bouquins comme ça, alors, je ne veux pas dire que vous faites lâcher, parce que l'idée, c'est que ça va. Enfin, ouais. En tout cas, vous faites une expérience qui vous fait rentrer dans la majeure. Je crois que ça valait la peine de finir là-dessus. J'ai essayé de montrer modestement qu'effectivement, là où il y a du CDD, il y a effectivement toujours de la fessée déculottée. Le texte qui va nous permettre de conclure, c'est un texte que j'ai illustré d'un dessin, que je trouve de très mauvais goût, mais qui a un bon résumé. C'est justement un extrait de Freud, lorsqu'il s'entretient avec son ami Plis. J'ai trouvé deux lettres de Freud qui sont assez intéressantes. Voilà ce que nous dit Freud. par capitalisme et pulsion de mort, Bernard Maris et Peter Stacker. Peter Stacker, c'est un de ses amis à lui, le psychanalyste. Donc, argent et analité, par exemple, argent et analité. Il y a certains que vous posez négligemment, par exemple, chez votre banquier qui vous refuse un prêt. Qui comprennent qu'il y a un vrai trou du cul, parce que c'est ça, je résume, mais c'est ça, genre, pour être banquier, il faut être un sacré trou du cul. Alors, voilà l'extrême. En vérité, partout où le mode de la pensée archaïque a été dominant, où il est resté dans les cultures antiques, dans le mythe, le conte, la superstition, dans la pensée à la conscience, dans le rêve et dans les névroses, l'argent est placé dans les relations les plus intimes avec la merde. Et voilà, et ben ce sera le mot de la fin. Je vais parler de fonctions de littérature, ça volait haut, mais je finis avec ces 5 R. Et nous pouvons, et ben. Nous interrompre, une petite clope, prendre un petit café, et pourquoi pas, aller au cabinet. Je vous remercie. On fait la petite pause, et puis ensuite, si vous le voulez bien, on engage le débat. Et donc, vous pourrez raconter vos expériences. Je sais que ça vous brûle.